OK, on va commencer notre 35e leçon dans notre série sur le péché, les 10 commandements et la grâce. Ce matin, on va regarder le sujet, le calvinisme, est-ce biblique? Alors, dans nos deux leçons précédentes, on avait examiné la question, le calvinisme, qu'est-ce que c'est? Et le calvinisme, est-ce nouveau? Ce qu'il est convenu d'appeler doctrine de la grâce ou calvinisme a toujours été au centre d'une controverse théologique. Comment se fait-il que la Bible soit interprétée de manière si différente, par exemple le calvinisme versus l'arminianisme, ou entre les groupes qui se réclament du christianisme? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous discutez avec quelqu'un, puis là vous parlez de choses bibliques et les gens vous disent « Veux-tu bien me dire comment ça se fait que vous autres, vous dites toutes que vous avez la même Bible, puis vous avez à peu près 500 groupes différents? Est-ce que c'est une question qui est facile à répondre? » Essayer d'expliquer ça à quelqu'un, il faut que tu y rentres beaucoup de... Alors, c'est ça que le but de ce matin, calvinisme est biblique, c'est comme comment ça se fait que beaucoup de groupes adoptent l'arminianisme, comment ça se fait que d'autres groupes adoptent le calvinisme, il y a des principes. Si tu ne suis pas les principes, bien sûr que tu vas arriver avec un résultat différent. Alors, c'est ça qu'on a voulu regarder un petit peu ce matin. Alors, on croit que la réponse, comment ça se fait qu'il y a tant de différences entre les groupes chrétiens, la réponse se trouve dans le respect de certains principes. Alors, le premier principe, ce serait le principe de l'attachement fidèle aux Saintes Écritures et en elles seules. Tu sais, ce qu'on dit le fameux sola scriptura, si quelqu'un bâtit un système de théologie qui n'est pas uniquement fondé sur les Saintes Écritures, et qu'il va chercher d'autres affaires ailleurs, comme dans la tradition, bien entendu, il va arriver avec un faux résultat. Alors, l'attachement fidèle aux Saintes Écritures est en elle seule. Acte 17, verset 11. « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Alors, ce qu'on appelle l'esprit béréen. Alors, quand on veut étudier la doctrine, il faut avoir l'esprit béréen et les Écritures ouvertes, et on va vérifier si ce que la personne dit est exact. Sinon, bon, on le rejette. Le deuxième principe, c'est celui de la persuasion, de la perfection et de la suffisance de la Bible. Ça, c'est une autre chose aujourd'hui qui court les rues, dans le sens que beaucoup de gens ne croient pas, surtout les libéraux, 19e, 20e siècle, ont commencé à dire que les Écritures ne sont pas parfaites en soi et quelque part peut contenir des erreurs. Alors, c'est sûr que si ton approche dit ça, ça aussi, ça va t'amener bien loin. Alors, vraiment, il faut que tu sois convaincu par les Écritures elles-mêmes que les Écritures sont parfaites et qu'elles sont suffisantes pour toute chose, non seulement pour la doctrine, mais aussi pour ta pratique. Alors, le psaume 19, verset 7, nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. » Alors, on va trouver aussi la réponse à la troublante question « Comment ça se fait qu'il y ait tant de différences dans les différentes dénominations ou groupes chrétiens ?» Je pense que la réponse se trouve dans les Écritures elles-mêmes. Alors, la Bible nous donne des réponses. La première réponse, c'est que la Bible nous avertit que les hommes ajouteront ou enlèveront aux Saintes Écritures. Par exemple, dans Apocalypse, chapitre 22, les versets 18 et 19, on lit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. » Alors, on va prendre quelques exemples d'ajouts aux Écritures. Pas nécessairement dans le texte lui-même. Alors, il y a des gens ajoutés aux Écritures, c'est pas juste changer des mots dans les Écritures, quoi que ça peut être ça, mais ça peut être aussi tu interprètes à la lumière de la Bible et de d'autres livres sur lesquels tu mets la même autorité. Tu leur donnes la même autorité. Alors, on prend un exemple. Le catholicisme romain, par exemple, va donner autant de poids à la tradition qu'à la Bible. Alors, si tu essaies d'interpréter la Bible et que tu mets la tradition sur le même pied d'autorité que la Bible, bien sûr, ça va t'emmener dans des erreurs. Autre exemple, les Mormons, par exemple, ils vont ajouter, je pense qu'ils en ont trois. T'as la Bible, le livre des Mormons, puis tu en as un autre aussi, je me souviens plus, je pense que ça s'appelle l'Alliance, quelque chose comme ça. En tout cas, je pense qu'ils ont trois livres à part de la Bible. Alors, imagine-toi essayer d'interpréter la Bible en essayant de tenir compte de ce qui est écrit dans les quatre livres et tu mets l'autorité sur le même pied. C'est sûr que Et également, on a la tour de garde. On a les témoins de Jéhovah qui vont ajouter la tour de garde. Et aussi, un autre exemple de ça, les pentecôtistes, qui vont ajouter, je ne dis pas tous les pentecôtistes, mais certains groupes, certains, vont ajouter les révélations extra-bibliques. Autrement dit, quelqu'un va se lever dans l'assemblée ou bien on va affirmer « Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, telle affaire », sans qu'il y ait une vérification si tout cela correspond à ce qui est déclaré dans l'Ancienne Écriture. Alors, si tu te mets à tenir compte des révélations extra-bibliques, bien sûr que ça va t'amener aussi à toutes sortes d'erreurs théologiques. Aussi, des exemples de retranchement au sein des Écritures, pas pour rien que dans le milieu réformé, en général, dans les milieux conservateurs, on va rejeter certaines versions quasiment de façon complète. Tu sais, paroles vivantes et des affaires de même, parce que c'est plus une traduction, c'est quasiment un commentaire. Tu respectes plus les mots. Et on sait que certaines doctrines sont basées sur une traduction d'un mot en particulier. Et si tu commences à jouer avec ça, tu t'aventures dans un terrain très glissant. Alors, les exemples de retranchement aux Écritures, les mauvaises traductions, et aussi le fait de ne pas tenir compte de l'ensemble des enseignements de toute la Bible. Beaucoup d'erreurs viennent de là. Les gens voient un passage quelque part. Ah! La Bible dit ça, donc, à quelque part, mais ils ne regardent pas, ils n'essayent pas d'harmoniser ce qu'ils croient voir dans le verset qu'ils lisent avec l'ensemble de tout ce que les Écritures disent. Alors, la Bible nous avertit que les hommes ajouteront ou enlèveront aux Écritures, mais elle nous avertit aussi que les hommes tordront les Écritures, comme ça le dit dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 à 17. « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. » Dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Alors, jamais personne qui a dit que les Écritures étaient faciles à interpréter de A à Z. Ici même, là, c'est le Saint-Esprit qui inspire les Écritures, dit, donc, dans les lettres de Paul, donc dans les épîtres, il y a des points qui sont difficiles à saisir. Alors, à quelque part, c'est sûr que si tu ne tiens pas compte de ce principe-là et que tu leur fais dire n'importe quoi, ça te mène vers des erreurs. Aussi, on avait le verset 17. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Alors, les hommes tordent le sens des Écritures en les utilisant de plusieurs façons, hors contexte, ou en les interprétant malhonnêtement, ou en les interprétant avec un manque de rigueur et en oubliant leur devoir d'harmoniser tous les passages. Alors, bien sûr, quand on regarde une doctrine ou un système théologique, il faut que tous les versets s'harmonisent. Si les versets ne s'harmonisent pas, là, à ce moment-là, tu es en train de vouloir dire que la Bible dit quelque chose, mais tu n'es pas capable d'harmoniser des versets qui semblent contredire ce que tu dis. Alors, il faut qu'il y ait un besoin d'harmonisation dans un système. Et le calvinisme est réussi parfaitement. Troisième chose dont la Bible nous avertit, que les hommes ne se soumettront pas toujours à ses enseignements. Matthieu, chapitre 15, versets 6 à 9, Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Alors, ce n'est pas nouveau. Déjà à l'époque de Jésus, on commençait à... parce que la parole de Dieu est là pour être obéie, et non pas pour y donner un sens qu'elle n'a pas et lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Alors, les hommes refusent parfois d'assujettir leur raison ou leurs émotions à les révélations bibliques, ou ils choisissent délibérément ou par ignorance de désobéir. Alors, la question qu'on pourrait se poser, comment alors peut-on connaître la vérité? Alors, il y a différents critères que si tu ne les as pas, tu n'interpréteras pas les Écritures correctement. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je les ai mis. Peut-être qu'il y en a d'autres, là, mais en tout cas, j'ai mis, je pense, ceux qui sont les plus importants. Alors, on ne peut pas... Alors, le premier critère, c'est vraiment la nouvelle naissance ou la régénération. Parce que les Écritures nous disent, par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14... L'homme animal, ici dans le contexte, l'homme animal, ça veut dire un homme non régénéré, un homme qui n'a pas reçu la nouvelle naissance, ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, le premier critère pour pouvoir interpréter les Écritures correctement, c'est d'être né de nouveau, avoir été régénéré par le Saint-Esprit. On a aussi la même idée dans 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 3 et 4. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Alors, un autre principe qui nous est dit, c'est que Satan aveugle les gens qui ne sont pas sauvés, de manière à ce que, si l'Évangile leur est annoncé, il va tout faire pour brouiller les pistes, comme on dit, pour pas qu'ils comprennent. Deuxième critère pour connaître la vérité, avoir les bonnes attitudes. Jacques 1, versets 21 à 27. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc, les bonnes attitudes, selon le texte, c'est vraiment l'ouverture d'esprit, l'humilité, le courage, la persévérance, la prudence et la révérence. Alors, si quelqu'un commence à étudier les Écritures, puis qu'il a déjà un préjugé dans sa tête, puis qu'il n'a pas l'attitude d'humilité de se laisser enseigner, c'est sûr qu'il va s'égarer quelque part en chemin. L'autre critère, c'est l'assistance du Saint-Esprit. Si quelqu'un cherche à interpréter les Écritures par son intelligence, « Ah, moi, je suis intelligent, je comprends tout », et qu'il s'en va avec cette attitude-là dans les Écritures, c'est sûr qu'il ne réussira pas. Ça y prend l'assistance du Saint-Esprit. Alors, Jean, chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, le rôle du Saint-Esprit est essentiel, dans le sens qu'il va nous enseigner les choses, mais encore, faut-il lui demander son aide avant même d'étudier les Écritures. Aussi, on a Colossiens 2, versets 6 à 8. « Ainsi donc, Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alors encore, on a l'avertissement de faire attention, de ne pas prendre les choses du monde pour essayer de rentrer ça, d'harmoniser ça avec les choses de Dieu. Il faut, comme ça dit, qu'on s'appuie sur la personne de Christ. Autre critère que ça prend, c'est l'humble et fervent prière. Alors, j'ai oublié de marquer le texte, mais en tout cas, c'est pas grave. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Alors, bien sûr, avant de commencer les Écritures, on se devrait toujours de demander l'assistance du Saint-Esprit et aussi de prier de façon humble et fervente. Autre critère, l'acceptation des réelles caractéristiques et exigences des Saintes Écritures. Alors, le premier caractéristique et exigence, l'absolue perfection et suffisance des Écritures. Psaume 19, versets 7 et 8, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Donc, partir avec l'idée, accepter l'idée que les Écritures en elles-mêmes sont complètes, parfaites, et si on ne part pas avec cette idée-là, moi je me souviens la première fois que j'ai compris cette idée-là, c'est Arthur Pink qui me l'a fait comprendre. Je disais un livre et il faisait la mention que comme chrétien, on se doit de croire que toutes les Écritures, à partir du premier mot de la Genèse jusqu'au dernier de l'Apocalypse, et même l'ordre dans lequel sont écrits dans les textes originaux, c'est la parole de Dieu pure et simple. Alors, si tu pars avec cette attitude-là, que tout ce qui est dans les Écritures, c'est la parole de Dieu, tu pars vraiment avec la bonne attitude. Donc, faut que tu crois que l'absolue perfection et suffisance des Écritures. Et quand on regarde aujourd'hui les commentateurs modernes, beaucoup de modernes, beaucoup de, de libéraux, souvent leurs attitudes face à l'autorité des Écritures et à leur perfection est plus que déficiente. Vraiment, alors c'est sûr que ça ne peut pas les mener très loin. Alors, autre principe, concernant l'acceptation des caractéristiques de la Bible, la nécessité de les étudier dans une étude approfondie. On ne peut pas comprendre les Écritures. Les Écritures elles-mêmes nous commandent de les étudier. Malheureusement, de nos jours, il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Alors, quand on regarde dans Jean 5, verset 39, dans la version d'Orbi. Pourquoi j'ai mis d'Orbi? Parce que, dans le fond, c'est un impératif. La traduction est correcte. Si tu le traduis par « vous sondez », ça a l'air de vouloir dire c'est comme vous étudiez un petit peu les Écritures de temps en temps. Quand un verbe est un impératif, c'est un commandement, c'est un ordre. Sondez les Écritures. Alors, on sonde les Écritures en les étudiant. Sondez les Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors, bien sûr, on pourrait mettre beaucoup d'autres versets pour nous dire que la Bible nous commande d'étudier la Bible. Autre chose, comme principe qu'il faut accepter concernant les Écritures, c'est la nécessité de lui accorder du temps et des efforts. Aujourd'hui, on est vraiment rendu à une époque où on veut tout... Tu vas regarder sur les sites américains, par exemple, la quantité de livres avec le mot « made easy ». On dirait que tout ce qui est un petit peu complexe, il y a quelqu'un qui a écrit un livre puis il a dit « comprendre la Bible facilement ». Ça, c'est vraiment de la foutaise. Alors, les Écritures elles-mêmes nous disent qu'il faut, pour avancer dans la compréhension les Écritures, il faut mettre du temps et des efforts. On dirait qu'aujourd'hui, le mot « effort », ça fait peur à bien du monde. Alors, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 8. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. » Donc, même les mots « effort » est au pluriel. « Faites », c'est un commandement aussi. « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, à la science, la tempérance, à la tempérance, à la patience, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. » Car si c'est... Regardez bien le verset 8. Verset 8, c'est un verset avec un mot important. Le mot « si », c'est une condition, c'est conditionnel. « Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, qu'est-ce que c'est le calvinisme si ce n'est pas la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Si on fait ça, comme les Écritures nous disent, si on fait les efforts, ben, si ces choses sont en nous, ils sont là avec abondance, qu'est-ce que la Bible dit que ça va faire? On ne sera pas oisif, ça veut dire on ne restera pas à rien faire, puis on ne sera pas stérile non plus, on produit du fruit. Alors, c'est important d'accorder du temps et des efforts à l'étude des Écritures. Bien sûr, une autre acceptation des caractéristiques de la Bible, c'est la nécessité d'obéir. Quelqu'un pourrait être un universitaire, pourrait connaître la Bible par cœur, il pourrait être un spécialiste de savoir beaucoup de choses, mais si le contenu de la Bible n'a pas transformé sa vie, ça ne donne pas grand-chose. C'est ça que les Écritures nous disent. 1 Jean, chapitre 2, versets 3 et 4. Encore là, remarquez le mot « si ». Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Alors, comme on dit dans les Écritures, Jean est vraiment reconnu pour son franc-parler et pour quand il dit des choses, et c'est toujours tranchant. Quand il dit « celui qui dit qu'il l'a connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, il ne va pas que le dos de la cuillère. » C'est ce qu'on dit. Et tu as Luc 6, versets 46 et 49. Le Seigneur lui-même dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Alors il dit « Et je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les mets en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. » Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Alors tu as vraiment le principe de l'obéissance qui est là-dedans. Mise en pratique, si tu ne mets pas en pratique, c'est comme ta maison est bâtie sur le sable. Alors, le premier point qu'on va regarder, c'est vraiment le calvinisme est uniquement biblique. Aujourd'hui, on va regarder certains principes généraux, mais on va revenir avec le développement du calvinisme dans les versets beaucoup plus détaillés. Aujourd'hui, c'est vraiment le principe de base. Est-ce que le calvinisme s'est enraciné, fondé dans les Saintes Écritures? Et notre réponse est un gros oui, avec un gros O majuscule, un gros U majuscule, puis un gros I majuscule. Alors, le calvinisme est biblique, oui, parce qu'il reconnaît uniquement les Saintes Écritures comme autorité. On le sait, la Bible doit être lue, écoutée, méditée, mémorisée et étudiée en étant pleinement conscient qu'elle est la parole du Seigneur lui-même et qu'elle a donc toute l'autorité divine pour modeler nos croyances et nos pratiques. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, on a vraiment l'idée qui est dit clairement. C'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ça devrait être un verset qu'on devrait savoir par cœur. Parce que beaucoup de gens, des fois, vont nous dire, « Ah oui, mais la parole de Dieu, là, la Bible, ça a été écrit par des hommes. » Qu'est-ce que ça dit ici? Ça dit « Non comme la parole des hommes, on ne la reçoit pas non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu. » Qui nous dit aussi, qui agit en vous qui croyez. Donc, le calvinisme est uniquement biblique parce qu'il utilise, il reconnaît uniquement les Saintes Écritures comme autorité, et aussi, il soumet sa raison et ses émotions aux Saintes Écritures. Alors, les doctrines, par exemple, du décret de Dieu, de son absolue souveraineté, de la prédestination et de l'élection répugnent et humilient profondément l'homme. Alors, quand on prend un homme comme George Muller, qui est reconnu dans ses biographies comme étant un grand saint de toutes les époques, qui a vécu avec une très grande foi dans la prière et dans la confiance en Dieu pour s'occuper des besoins de... Hey, à la fin, il est rendu avec 2000 orphelins. Vous essayerez ça pour le fun, 2000 orphelins. Et il n'a jamais demandé à personne de lui donner de l'argent. La philosophie qu'il avait pris dès le début de son ministère avec les enfants, c'était que je ne demanderai jamais d'argent aux hommes. Quand il y avait un besoin, il s'adressait directement à Dieu, puis il attendait la réponse de Dieu. Mais Dieu le met à l'épreuve, parce que souvent, il était dans des situations où il était vraiment comme, pensait que ça n'arriverait jamais, puis des fois, à la dernière minute, le Seigneur l'exauçait. Alors, il l'a habitué à ce que ça soit un homme de prière. Mais durant, on raconte ça juste pour amener au fait suivant, c'est que George Muller, on croit qu'il était véritablement un chrétien régénéré, mais ça lui a pris 20 ans avant d'accepter la doctrine de la grâce. Et il le dit, j'ai un document à la maison qui le dit ouvertement, il dit, je lisais les passages, ils m'interpellaient, mais je n'étais pas capable de soumettre mes émotions et mon intelligence à cela. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça se produise. Mais imaginez-vous, alors il faut soumettre sa raison et ses émotions aux Saintes Écritures, c'est parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait à l'inverse. On raisonne et on dit, mais ça ne se peut pas que Dieu soit comme ça, par cause, et on essaie d'imposer ça sur la structure des Écritures. Alors, il faut vraiment soumettre notre raison et aussi nos émotions. Parce que quand on apprend que Dieu choisit certains hommes et qu'il ne choisit pas tout le monde, ça, c'est une idée. Bien là, c'est pas juste. Alors, on entend souvent des affaires de même. Alors, quelque part, c'est parce que nos émotions puis notre raison, elle a de la difficulté à se soumettre à ce que Dieu dit. Le deuxième point qu'on va regarder, le calvinisme est parfaitement biblique. Parce que si on étudie les doctrines de la grâce, on pourrait dire que les doctrines de la grâce sont tissées à l'intérieur même des Écritures dans à peu près tous les livres. Ou peut-être même, je pourrais dire, tous les livres. Alors, la Bible est littéralement remplie de cet enseignement depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alors, la Bible l'enseigne avec une grande force et aussi une multitude de versets. On va voir dans les semaines qui suivent, on va rentrer de plus en plus dans les points, là, les 5 points, et on va voir qu'il y a beaucoup d'écritures pour être capable de nous démontrer ça. Autre chose qui nous fait dire que c'est biblique, c'est que le calvinisme réussit le test de l'harmonisation. Ça, c'est vraiment c'est comme the acid test, comme ils disent en anglais, d'un système théologique. Si tu n'es pas capable d'harmoniser tes passages qui semblent contradictoires, à quelque part, c'est que tu as fait fausse route. Et le calviniste réussit ce test-là de l'harmonisation. Alors, il est possible, sans faire violence aux Écritures, d'interpréter avec cohérence, logique et intelligence les passages sur les différentes facettes du salut qui semblent contradictoires. J'insiste sur le mot « semble ». C'est sûr que des fois, les Arméniens vont nous arriver, ils vont nous citer un verset. « Regarde, la Bible dit ça. » Oui, mais elle dit d'autres choses aussi. Quand tu mets les deux versets l'un à côté de l'autre, ça semble se contredire, mais c'est toujours les contextes qui nous donnent les réponses. Alors, quand on ne tient pas compte du contexte, bien là, on s'égare. Alors, l'inverse est impossible sans que la Bible ne devienne un livre de contradiction, ce que nous rejetons totalement. Alors, le psaume 19, versets 7 à 11, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. » Et on a 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 et 15. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Alors, l'autre point, c'est que le calviniste est définitivement biblique parce qu'il réussit tous les tests. Il réussit parfaitement le test du temps et de l'histoire, le test de la cohérence et de la logique, et celui de la vérité et de la conformité aux enseignements de la Bible. Il réussit aussi le test du fruit. Alors, le Seigneur, dans Matthieu 7, nous avait donné comment on pouvait reconnaître ceux qui étaient véritablement régénérés, versets 13 à 20. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Donc, les fruits du calvinisme peuvent être observés dans tous les domaines des vies, qu'elles soient individuelles ou collectives. Donc, on a le fruit de la sanctification, le fruit de l'évangélisation. Souvent, les ennemis du calvinisme vont accuser les calvinistes de ne pas évangéliser, ce qui est complètement faux. On peut facilement démontrer le mensonge de cela. Les fruits aussi perceptibles. Alors, lors du, je pense, 500e anniversaire de Calvin, ou 400e, je pense 400e, on avait émis toute une série de volumes qui nous ont été donnés quand on avait été à Saint-Jérôme sur Calvin. Et on a étudié Calvin sur tous les angles. Donc, on a étudié comment il y avait un impact dans le domaine de l'éducation, par exemple. Un livre écrit juste là-dessus. Un autre livre, comment ça a eu, sa doctrine, de l'impact dans le domaine de l'économie, comment ça a eu un impact dans le domaine de la politique, et comment ça a eu un impact dans le domaine de la liberté et de la démocratie. Alors, quand on dit les fruits du calvinisme peuvent être observés dans les domaines des vies individuelles et collectives, ça peut facilement être démontré. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir de notre brève étude de ce matin? Nous avons des devoirs concernant l'étude des doctrines de la grâce. Premièrement, la préservation. Deuxièmement, la mise en pratique. Troisièmement, la diffusion. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins, peut-être, que vous ne soyez réprouvés. » 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Alors, si aujourd'hui on comprend la doctrine de la grâce, c'est parce que quelque part, il y a quelqu'un qui est une courroie de transmission pour que ça se rende jusqu'à nous. Mais à partir du moment qu'on les a, nous, on a le devoir de les préserver, de mettre ça en pratique et aussi de diffuser, c'est-à-dire le transmettre à d'autres, comme ça dit dans 2 Timothée 2:2. Dans Jude, verset 3, il dit « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » Donc, ça implique un combat et on ne peut pas l'ignorer, même si on voudrait que ça n'en soit pas un, il va être présent quand même. Deuxième application, prions le Seigneur de nous accorder de conserver les bonnes attitudes devant les Saintes Écritures. Ouverture d'esprit, courage, humilité, soumission, prudence et révérence. Troisième application, sachons que défendre, enseigner et diffuser la vérité aura un coût. Du travail acharné, de la prière, de l'étude, de la prédication, malgré les obstacles et le mépris, les persécutions et les attaques des forces du mal. Que l'Éternel nous donne d'être fidèles et courageux. Vérité oblige. Amen.